si je devais répondre à la question que le docteur Bernheim a posée, d'après mon sentiment, ma pratique dans le système pénal, ça serait de dire il faut au fond créer quelque chose qui se situe en dehors de la prison, mais aussi bien en dehors de l'hôpital psychiatrique lui-même.
Professeur, sur ce point, vous souhaitez peut-être dire quelque chose ?
Merci beaucoup. Je pense qu'actuellement, la question ne se pose plus réellement dans ces termes tout à fait schématiques que j'ai dit ce matin, et que la pratique est, d'une certaine manière, relativement nuancée et relativement engagée dans une certaine direction. Il est clair qu'actuellement, dans les systèmes hospitaliers psychiatriques suisses, l'option a été prise d'ouvrir autant que possible, de prendre des cas aigus et de ne pas traiter des cas chroniques à long terme, surtout lorsque ces cas sont dangereux. Et si l'on est conduit à traiter quelqu'un dans une situation de danger assez grave, on se trouve dans des situations presque de contrainte physique, parce que la sécurité de l'hôpital psychiatrique n'est pas adaptée à cela. L'hôpital psychiatrique fait autre chose que d'assurer une haute sécurité. Et alors, inversement, j'ai le sentiment que c'est dans le modèle de la haute sécurité carcérale qu'on trouve le moyen de tenir compte des deux catégories de population qui présentent un danger ou qui sont inacceptables pour la communauté. Et je pense qu'en effet, on peut imaginer, on peut penser à des établissements tiers qui ne soient ni réellement la prison telle qu'on l'entend habituellement et pas davantage l'hôpital psychiatrique, mais qui soient des établissements dont la sécurité extérieure, en quelque sorte, soit assurée par des spécialistes de l'administration pénitentiaire, des spécialistes de la sécurité, et puis à l'intérieur de ce cadre extérieur de sécurité, prévoir des structures différenciées dans le genre de celle de la pâquerette, avec une sorte d'élaboration intérieure et de structuration intérieure qui n'est pas orientée vers la sécurité, parce que la sécurité extérieure, elle est là, elle est assurée par l'administration pénitentiaire. Mais ce qu'il faut structurer à l'intérieur de ces petites unités dans le genre de la pâquerette, c'est l'élaboration, si vous voulez, démocratique des décisions. Et c'est une structuration qui est très élaborée. Et comme Mme de Montmorin le soulignait, il n'est pas du tout question de permettre l'expression relativement anarchique d'une sorte de liberté qui n'en serait pas une. La liberté dans la pâquerette, c'est une liberté qui est très organisée. C'est comme la liberté du peuple vaudois quand il va aux urnes, c'est très organisé. C'est pas impulsif, on n'est pas libre comme ça. On est libre parce qu'il y a une organisation de procédures et de modalités d'expression. Et alors je pense que cet établissement tiers auquel nous imaginons tous, en fait, ça peut être, comme disait M. Valotto, une petite unité garantie dans l'établissement global de la prison, une petite unité qui soit différenciée au sens où Mme de Montmorin l'exprimait. Est-ce que je vais encore dire une chose là-dessus? Oui, je pense qu'il faut bien voir qu'on ne peut pas, à mon avis, généraliser en quelque sorte la pâquerette à la globalité d'un établissement pénitentiaire. Parce que la pâquerette exige en tout cas une triple condition. Il faut que les détenus soient réellement et authentiquement volontaires, et que s'ils veulent s'en aller, ils puissent s'en aller, c'est-à-dire retourner dans la prison ordinaire. Deuxièmement, les gardiens doivent être volontaires également. C'est pas les gardiens qui sont dans la pâquerette avec ce style éducatif et expressif et technique d'apprentissage, d'atelier, de conseil de type un peu paternel, si vous voulez, et de supervision générale au sens de l'échange interpersonnel. Ça, c'est quelque chose qui demande une spécialité chez le gardien. Donc n'importe quel détenu n'est pas fait pour aller à la pâquerette, n'importe quel gardien n'est pas fait à la pâquerette, et évidemment, n'importe quel soignant n'appartient pas non plus à la pâquerette. Voilà ce que je voulais encore préciser. Merci.
Merci. Oui, parce que il est 6h15. Je vous propose que nous passions au deuxième thème, c'est-à-dire à l'examen de la question de savoir, s'agissant des délinquants ou des patients psychiques, qui décide de leur sort, en fin de compte, si c'est le psychiatre ou si c'est le juge ou l'administration. Et là, je vais faire un peu de provocation pour faire avancer le débat. Comme avocat, je ne me considère pas comme auxiliaire de la justice, mais en l'espèce, je suis consulté par la justice, j'ai un mandat pour la défendre. Juste pour lancer le débat, après je redeviendrai complètement neutre. Plusieurs fois pendant cette journée, on a entendu des intervenants, des gens dans la salle, au fond, accuser la justice et le service pénitentiaire pour son comportement à l'encontre des détenus. Et j'estime que ces accusations sont injustes, dans la mesure où, en fin de compte, ce sont les psychiatres qui décident quasiment de tout, s'agissant des délinquants, patients psychiques en tout cas. Au stade de l'audience de jugement déjà, l'expertise joue un rôle absolument décisif. Je disais ce matin, j'y reviens, la mesure de la diminution de responsabilité constatée par le psychiatre est déterminante pour la fixation de la peine. Le tribunal fédéral a même maintenant marqué un certain rapport entre cette mesure et la peine. En principe, quand la responsabilité est moyennement diminuée, on diminue la peine de 50%, quand elle est légèrement diminuée de 25%, quand elle est gravement diminuée de 75%. C'est donc bien le psychiatre qui détermine en fin de compte, de manière indirecte mais effective, la peine, le juge s'éloignant très très rarement de l'expert psychiatre. De même pour ce qui est du choix de la mesure, on en parlait ce matin mais je crois que ça vaut la peine d'y revenir, jamais, en tout cas jamais dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré un tribunal qui ne prononce pas une mesure de traitement ou qui ne prononce pas un internement quand un psychiatre expert se prononçait fermement en faveur de cette mesure. Donc je dis que si les gens sont traités, si les gens sont internés, c'est parce que le psychiatre, dans son expertise, a dit que tel devait être le cas. Le juge jouit théoriquement d'un pouvoir d'appréciation, mais dans les faits, il n'en fait presque pas usage. Et c'est en fin de compte compréhensible parce qu'il voit le patient quelques minutes, disons quelques heures, pendant quelques heures d'audience, et il ne peut pas se faire une opinion. Il est donc obligé de se fonder complètement sur l'opinion du psychiatre. Et puis enfin, pour ce qui est de la fin du traitement et de la fin de la mesure, alors en tout cas, ce n'est pas la justice qui est responsable parce que ce n'est pas elle qui répond. Formellement, c'est l'administration pénitentiaire. Mais là encore, pour prendre sa décision, l'administration pénitentiaire doit entièrement se fonder sur l'avis des psychiatres. Donc, à quelques stades de la procédure qu'on se trouve, je prétends, en ma qualité d'avocat de la justice ici, je prétends que c'est en réalité le psychiatre qui décide et que c'est lui qui exerce le pouvoir. Voilà, j'ai terminé la phase de provocation. Je souhaite maintenant, la parole est maintenant à la défense des psychiatres et personne, bien sûr, n'est mieux placé que le docteur Gravier pour assumer sa propre défense. Voilà.
Merci de la provocation, maître.
Oui, moi j'étais. C'est moi qui avais organisé le congrès de Proventesana en 86, où le docteur Mieville, notamment, avait beaucoup parlé, s'était confronté avec Willeheim sur ce sujet-là. Moi, je suis très content que le droit fédéral qu'on envisage de modifier le droit fédéral là-dessus, parce que effectivement, les psychiatres ont beaucoup trop de pouvoir dans ce domaine-là, puisque les juges n'ont pas le courage ou pas les moyens de ne pas suivre les expertises psychiatriques et de se former leur propre opinion en leur âme et conscience à ce sujet-là, n'est-ce pas? Qu'il leur faut un guidane, le psychiatre, pour se faire une opinion là-dessus. Alors, l'idée du docteur Mieville, il y a il y a une dizaine d'années, c'était essentiellement celle-ci. La nature profonde du rapport qui relie le patient et le psychiatre, c'est la relation. Hein. Toute intervention d'un psychiatre auprès d'un détenu ne peut être fondée que sur la relation. C'est en tout cas ce qu'ils disent, disons, les psychiatres modernes, quoi. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de autre chose de possible qu'une relation entre un psychiatre et un patient. Et comment créer une relation, donc avoir une thérapie valable avec un patient, si au bout du compte, on transforme le psychiatre en juge, puisque ce psychiatre devra dire responsable, pas responsable, etc. Donc, le docteur Miéville disait il faut maintenant que les psychiatres arrêtent de fonctionner comme des juges et que les juges reprennent leurs responsabilités. Et pour ce faire, c'est vrai que sur les faits, le psychiatre pouvait quand même apporter des éléments d'information qui devaient permettre au juge de se déterminer. Mais donc le psychiatre devait être un témoin. On ne devait plus l'appeler expert, mais un témoin privilégié qui devait donc pouvoir donner au juge des éléments de fait, dire voilà ce qui s'est passé dans ma relation avec ce patient, voilà où on avançait, où on a abouti. Et de cette manière-là, je dirais de manière beaucoup plus démocratique, le juge devait pouvoir se déterminer sur la responsabilité. Parce que c'est aussi vrai que les psychiatres sont pas plus objectifs que les avocats dont vous parliez ce matin, puis on voit vraiment pas pourquoi ils auraient la science infuse pour dire si quelqu'un est responsable ou ne l'est pas. Voilà il y a quelques idées.
Merci. Je propose peut-être que le docteur Cardier s'explique.
Je voudrais d'abord dire, juste en réponse à Maître Lop tout à l'heure, que effectivement les choses sont pas roses dans les prisons, hein, qu'il n'est pas du tout question de peindre les prisons en rose dans ce colloque, loin de là, mais il n'est pas non plus question de le peindre sur la muraille, et que je crois que si ce colloque a lieu aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a la convergence d'un certain nombre de volontés de faire bouger les choses, et je tiens à dire aussi que si le service de médecine et psychiatrie pénitentiaire s'est développé dans ce canton, et s'est développé de manière indépendante en disposant d'un statut indépendant et d'un budget indépendant, c'est grâce à la volonté concertée à la fois des autorités pénitentiaires, et je remercie tout spécialement M. Balotson, et des autorités sanitaires, M. Toriel qui est ici présent. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine prise de conscience qui se fait, mais la prison est une chose lourde, inerte, ancienne et violente, et qu'il faut beaucoup de choses et beaucoup d'énergie pour la faire évoluer. Quant à la question du pouvoir, ça me rappelle toujours... d'abord ma découverte de l'article 43 en arrivant ici, et puis à l'exposé que j'ai fait dans les jeudis de la Vaudoise, donc ce qui sont les jeudis de formation continue pour les médecins généralistes, ici pour ceux qui ne sont pas dans le canton de Vaud, et devant un amphithéâtre plein au CHUV dans lequel j'ignorais qu'il y avait des journalistes, et j'avais expliqué comment fonctionnait l'article 43 et un peu mon désarroi face à cette mesure que je ne connaissais pas et d'avoir à gérer. Et le lendemain, dans les journaux, gros titre avec ma photo, et c'était marqué « L'étrange pouvoir du docteur Gravier » en sous-titre « Peut-être l'homme le plus puissant du pénitencier ». Alors, je dois dire que, après avoir lu cet article-là, j'ai longuement hésité entre rien dire, faire une réponse de trois colonnes, ou refermer mes valises et retourner en France, où les choses étaient quand même peut-être un peu plus simples, quoique manichéenne dans l'esprit du droit. Finalement, je suis resté et je me suis dit que ça valait peut-être la peine de creuser cette problématique. Parce que je pourrais dire, le pouvoir et le psychiatre, en tout cas dans le domaine qui est le mien, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Chaque fois que vous essayez de vous en défaire, il vous revient. Il vous revient comme un boomerang, il vous est accolé, il vous est sommé de l'exercer. Et alors, pour une raison bien simple, parce que le droit nous y assigne d'une façon assez considérable et dans une tradition qui n'est pas celle du code Napoléon, dans laquelle s'enracine pourtant une grande partie du code pénal suisse, mais dans une tradition qui nous vient des pays de la défense sociale. Et là, il y a, avec un présupposé, qu'effectivement, le psychiatre ne fait pas du soin, mais fait du rééducatif ou du réadaptatif. Et donc, le psychiatre fait directement du contrôle social. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce pouvoir nous demande de l'exercer sur des choses qui sont très loin de ce que disait Luc pour tout à l'heure, c'est du domaine relationnel, la mise en scène, la mise en œuvre d'un travail thérapeutique sur la relation. On nous demande de l'exercer à partir de tout un train de mesures qu'a fort bien décrit M. Bernheim tout à l'heure, par exemple l'utilisation de substances comme l'antabuse, l'androcure, etc., hein, où on veut nous mettre en situation de prescripteur. Il faut bien être conscient, et je crois que tout le monde l'est, que c'est un discours de dupe. Le roi est nu dans cette histoire-là. On sait bien que le psychiatre n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir qui est celui du bouc émissaire, c'est-à-dire celui où on va le placer pour se mettre, se déterminer, quitte à dire qu'il s'est trompé, quitte à dire que si on a mis en œuvre une procédure, c'est parce que le psychiatre s'y est mis. Mais j'ai beaucoup plus l'impression d'être l'objet de la désignation que celui qui tient les ficelles dans cette histoire-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des raisons qui m'a poussé à travailler sur la création de la commission interdisciplinaire consultative, qui est peut-être pas l'instrument rêvé idéal, mais qui au moins permet de décentrer les endroits de décision, permet aussi que le psychiatre traitant, que l'équipe thérapeutique soit pas celle qui va renseigner les autorités sur la validité et le bien fondé du traitement qui est mis en œuvre. C'est-à-dire que c'est aussi notre instance de supervision, et pour participer régulièrement aux séances en tant que représentant du service et puis y échanger avec le professeur Bernheim qui préside cette instance, je trouve que c'est vraiment quelque chose de structurant parce que de temps en temps, c'est une instance qui permet de nous dire, écoutez, là, vos orientations, c'est pas forcément les meilleurs.
Je vous passe tout de suite, mais j'aimerais quand même demander encore une chose, docteur Gravier, mais finalement, est-ce que c'est pas la meilleure solution que ce soit dans ces cas-là le psychiatre qui prenne les décisions ou un collège de psychiatres, ce qui effectivement donne peut-être certaines garanties supplémentaires? Est-ce qu'il y a d'autres solutions en fin de compte?
Je rappelle quand même une chose, le psychiatre, pas plus que la commission interdisciplinaire consultative, ne prend la décision. La décision incombe à l'autorité d'exécution des peines, incombe à la commission de libération conditionnelle et incombe au conseiller d'État. Alors évidemment, on peut accuser le psychiatre d'être le conseiller occulte, le gourou, j'ai entendu beaucoup de qualificatifs comme ça quant à mon intervention auprès de certaines autorités, mais je pense que les magistrats, comme les responsables de l'exécution des peines, sont des gens tout à fait responsables et capables de prendre des décisions, et des décisions contraires, même au point de vue qu'on peut exprimer. Et c'est le propre. Voilà, je crois que Pierre a bien résumé. Oui.
En tout cas, dans l'expérience qui est la mienne, j'ai rarement vu les décisions qui, au niveau des tribunaux, au niveau de l'exécution des peines, c'est vrai que je connais mieux les tribunaux que l'exécution des peines, s'éloignaient beaucoup de la décision du psychiatre. Docteur.
Merci, leur passe. Je ne voudrais pas trop rallonger la discussion, mais disons, en entendant ce qui vient d'être dit, moi je craindrais qu'on mélange un certain nombre de choses et de niveaux logiques, notamment expertise et traitement. Je crois que c'est très très différent. Moi j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Luc, tout à l'heure. Donc je me souviens de ces débats avec Miéville, et c'est vrai que à l'époque notamment, on avait beaucoup réfléchi sur la possibilité pour le psychiatre d'être expert, ce qui est une autre chose. Mais le psychiatre en tant qu'expert, il n'est pas thérapeute. Et l'expertise ne se passe pas forcément dans la relation. Ça, c'était l'avis de Miéville. Alors bon, ce serait tout un débat d'en discuter, je ne vais pas entrer là-dedans. D'abord, ce que je veux dire, c'est que quand le psychiatre intervient en tant qu'expert, il fait un boulot qu'il n'a pas forcément souhaité faire. Alors là, j'aimerais, provocation pour provocation, vous répondre, M. le bâtonnier, en disant que moi, pendant de nombreuses années, étant depuis une bonne vingtaine d'années appelé à superviser des expertises de mes assistants et très souvent d'aller en tribunal pour les défendre, parce qu'elles sont souvent contestées, que ce soit par la défense si elle n'est pas contente. Il y a toujours un des deux qui n'est pas content, hein, c'est le ministère public ou c'est la défense. Donc, de toute façon, on se fait rentrer dedans. Comme je n'ai pas l'habitude de laisser mes assistants aller au casse-pipe, j'y vais en général toujours moi-même. Pendant très très longtemps, j'ai essayé de résister, notamment dans la suite du débat qu'il y avait eu, non pas seulement avec Miéville, mais aussi avec Kalanka, enfin avec d'autres de nos aînés qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. On essaie de résister tant que possible à un pouvoir qu'on nous oblige de prendre, je veux dire. Il faut quand même, je crois que c'est l'article 14 du Code pénal qui dit l'expert se prononce sur la responsabilité, point à la ligne, et on nous le renvoie à la figure si on refuse de se présenter. Moi, je me suis fait réprimander souvent parce que je refusais, ce que je refuse toujours, de donner des pourcentages. Alors, c'est vrai que les pourcentages, ils ont été déduits, mais je me suis toujours élevé contre cette tendance à vouloir donner des pourcentages. Chaque fois que je suis intervenu, chaque fois, j'ai eu des difficultés de dialogue, si ce n'est avec... j'aimerais bien situer les choses dans ce contexte-là et aller plus loin en disant qu'il ne faudrait peut-être pas confondre la société avec ses organes. Je crois que ce n'est pas, peut-être pas se renvoyer la balle de la responsabilité. Je crois que l'ordre judiciaire, l'instance d'exécution des peines ou le corps médical, si vous voulez, pour voir les choses dans leur ensemble, ils se débattent avec des tâches que la société leur confie de façon assez autoritaire. Des voies démocratiques, certes, mais quand même, une fois que les lois sont votées, il faut les appliquer, dans un contexte qui est très ambigu, et là, je rejoins l'histoire des paradoxes et des ambiguïtés qui vont avec, qui ont déjà d'ailleurs été soulignées avec bonheur ce matin dans l'exposé de M. Toriel. On est dans une société qui se débat dans des difficultés énormes. Alors, on attribue des tâches, etc., mais on rechigne souvent à donner les moyens qui vont avec, parce que, bon, il y a des difficultés économiques, etc. Donc, beaucoup de choses qu'on a entendues sont excellentes dans les déclarations d'intention, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut du monde, et plus, alors on quitte la tâche d'expertise, plus on va vers les soins, plus il faut du monde, parce que ces soins, ils sont relationnels, et que c'est ce qu'on commence à avoir de la peine à obtenir. Alors, je reviens, je conclurai là à la tâche d'expert. Moi, quand je suis expert et que je dois me prononcer sur quelque chose qui alors est assez effectivement dans mes compétences, c'est-à-dire vous avez découvert une pathologie X ou Y, et je précise au passage qu'on a parlé de plusieurs formes de traitement, il ne faut peut-être pas confondre non plus, hein, la pâquerette c'est pour une certaine forme de trouble de la personnalité, alors que les médicaments dont on parlait par ailleurs, c'est pour d'autres formes de pathologie mentale. Hein, donc là aussi, il y a des questions d'indication. Alors, quand on est là en tant qu'expert, on est mieux situé dans notre perspective habituelle. On se dit, il y a une pathologie qu'on a pu investiguer, il y a des mesures possibles, mais on a souvent l'impression de proposer du vent, parce qu'on se dit, ce pauvre président, il va faire quoi? Ce qu'on souhaiterait, j'ai plusieurs expertises en tête où j'ai répondu de façon nuancée, Mais ça me faisait mal au ventre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? On sait bien que dans ce canton, elles n'y sont pas, les institutions qu'on propose. Alors, bon.
Même au plus fort de ma provocation, je n'ai jamais prétendu que vous étiez arrogé le pouvoir. Hein, j'ai admis qu'on vous l'avait donné. Je crois qu'alors ça, c'est vrai.
J'aimerais intervenir depuis un moment, mais bon.
Oui, pardon. Vous avez déjà le micro? Alors,
oui,
c'est magnifique, allez-y.
Le micro. Vous avez dit tout à l'heure que le juge voyait quelques heures le détenu, enfin l'éventuel détenu, mais les patients qui doivent faire une expertise psychiatrique voient seulement quelques heures le psychiatre. Donc comment peut-il donner un tel pouvoir dans son expertise alors qu'il ne voit que quelques heures? D'autre part, contrairement à ce que M. Gravier dit ou d'autres, même que j'aime beaucoup les psychiatres, je trouve qu'ils ont encore beaucoup trop de pouvoir et pour beaucoup de choses.
Voilà ce que je voulais dire.
Si vous permettez, je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Président Fonjala.
Très modestement. Non, je crois d'abord qu'effectivement, il y avait un hiatus entre la question posée par Monsieur le Bâtonnier et la remarque de Monsieur Pont, qui parlait du pouvoir de l'expert au moment du jugement, et puis la réponse ou l'intervention de Monsieur Gravier, qui parlait, lui, sur des questions d'exécution des peines. Et alors là, le psychiatre a, me semble-t-il, dans les deux cas, deux positions tout à fait différentes. Monsieur Gravier est un médecin traitant, tandis que l'expert n'a pas la fonction de médecin traitant. Il a cette fonction de renseigner le tribunal, le juge, sur quelques faits qui sont relatifs à l'état de santé du prévenu et aux mesures qu'il y a éventuellement lieu de décider, d'ordonner. Et alors, dans la mesure où c'est le législateur qui a instauré ces mesures, avec en somme deux critères, les troubles psychiques et les soins à donner, les mesures à prendre, il faut bien dire que le juge n'est pas compétent en ces domaines. Donc il faut bien qu'il ait une aide. Mais ça n'est qu'une aide et finalement c'est bien le juge qui va prendre ses responsabilités. Et lorsque Maître Burnand dit qu'il n'a jamais vu qu'un juge ne suive pas un expert, son exemple, l'exemple qu'il a cité tout à l'heure avec les deux expertises, montre bien que les juges s'entourent de différents avis et qu'ils ne suivent pas obstinément un expert. Lui-même nous a expliqué avoir hésité quant à la stratégie à adopter pour son client. Et alors, si le juge ne suivait que l'expert, il n'y aurait pas non plus lieu d'avoir un avocat et un procureur. Et vous comprenez bien qu'un juge qui se trouve en face de Maître Loeb ou de Maître Burnand, il les écoute. Et si l'un ou l'autre a une bonne suggestion à faire, par exemple un complément d'expertise ou faire venir l'expert à l'audience pour lui poser des questions, voire ordonner une seconde expertise, on va l'écouter. Et s'il vient à l'audience avec un médecin traitant qui a des suggestions concrètes à proposer, le juge va aussi l'écouter. Donc il ne faut pas sacraliser l'expertise. L'expertise, c'est un renseignement. Et j'ajouterai encore ceci. Bien souvent, comme Grasset l'a dit tout à l'heure, les expertises sont souvent nuancées. Et alors, il y a souvent tant de nuances que le juge a bien de la peine à se faire une conviction et qu'il doit en quelque sorte, mais c'est pas un reproche que je fais, c'est normal dans la démarche, il doit refaire une certaine part de ce travail de détermination, de savoir quelle est la meilleure décision à prendre.
Merci, Monsieur le Président. Cum grano salis, je dirais quand même que dans l'hypothèse où il y a une contre-expertise, où qu'on amène le médecin traitant, le contre-expert et le médecin traitant sont encore des psychiatres. Hein. Mais encore une fois, c'est le système qu'il veut, n'est-ce pas? Moi, je ne fais de reproche à personne.
Oui. Alors, bon, dans la continuité de ce qu'on a dit, de ce qu'on a entendu cet après-midi, se pose la question, premièrement, donc on demande un avis à un psychiatre qui va, sur la base de ses connaissances ou son évaluation, faire une appréciation. Mais ce n'est qu'une appréciation. Et c'est une appréciation la plus précise possible sur la base d'éléments qui, vous en conviendrez, sont difficiles à déterminer. Donc, le juge a tous les autres éléments. Tous les autres éléments. Et ensuite de ça, la question qui se pose, c'est comment va-t-on faire fonctionner le principe de la multidisciplinarité par rapport à la définition de la responsabilité? Est-ce que ce n'est que le psychiatre ou bien est-ce qu'on va petit à petit aller vers d'autres spécialistes auxquels on va poser la question? Et surtout, par rapport à la définition des mesures à prendre, dans quelle mesure va-t-on s'adresser aussi à d'autres participants, à d'autres connaisseurs du problème ou du parcours de la personne jugée pour définir la mesure à prendre. Parce que moi, il me semble que là, on focalise sur le psychiatre, mais pendant l'après-midi, on a parlé multidisciplinarité. Alors, comment arriver à concilier cela? Comment faire évoluer les choses, et notamment le droit et le système judiciaire, pour pouvoir faire intervenir cette multidisciplinarité de plus en plus, de manière palpable, dans ces moments importants?
Il me semble que si on veut dépasser le stade de la provocation, c'est effectivement la question qu'on doit se poser, parce que je me souviens tout de même que ce matin, M. Fonjala, après son exposé, c'est proposé par Maître Bédor, la question de savoir aussi le droit et les modifications du droit pour les experts changeraient beaucoup de choses, ou si en fin de compte le juge accorderait autant de poids à l'intervention du psychiatre. Et je crois me souvenir que, mais je ne veux pas le trahir, que M. Fonjala a dit qu'au fond, il pensait que ça ne changerait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, finalement, d'obtenir que le juge, je ne sais pas, puisse en donner un avis plus éclairé sur la position prise par le psychiatre? Ça peut être la suite du débat. Je vois que mon ami Jean
fait l'amour, j'aimerais bien l'entendre.
Non, c'est... Non, je ne suis pas du tout d'accord. L'expert psychiatre a de très grands pouvoirs, et à cet égard, je me rallie absolument à ce que disait M. le bâtonnier. Quand l'expert psychiatre parle d'une responsabilité limitée, le juge ne va pas s'écarter en principe de cette décision. Ce que dit M. le docteur Grasset est tout à fait exact, parce qu'on lui pose des questions auxquelles il ne peut même pas, il ne devrait pas pouvoir répondre. On lui dit... déterminer en pourcentage la diminution de responsabilité. Les psychiatres devraient sauter en l'air en disant « Nous ne pouvons pas répondre à cette question. » Mais on dit « Si vous ne répondez pas à cette question, vous ne faites pas votre travail. » Donc là, évidemment, il y a quelque chose... Alors évidemment, c'est quelque chose, le psychiatre, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, mais alors, le juge a aussi très, c'est aussi extrêmement important, parce que, qu'est-ce qui se passe dans une enquête? L'avocat demande, il y a un pas extrêmement important lors d'une enquête, parce que l'avocat demande que son client...
Alors, si maintenant, vous pouvez dire si c'est moyen, si c'est léger, moyen ou grave. Hein, on nous propose une échelle dont on n'a que faire. Alors, effectivement, il y a des tas de choses. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des réunions comme maintenant. Et je pense qu'il y a tout un travail alors, interdisciplinaire à faire, et à poursuivre. Enfin, je veux dire, et comme disait Bruno tout à l'heure, il y a quand même pas mal de progrès qui sont faits. Moi, j'ai commencé à pratiquer dans ces difficultés-là à une période où le service actuel de Bruno n'existait pas, où le service de... Jacques Gasset n'existait pas non plus. Donc il y a des progrès qui sont faits. Maintenant, il y a une unité d'expertologie, il y a le service de médecine de psychiatrie pénitentiaire. C'est des forces pour travailler dans ce domaine de façon interdisciplinaire avec les instances judiciaires. Mais il y a du boulot, je veux dire.
Je me permets encore de dire une chose. C'est que effectivement, le juge pose des questions précises au psychiatre. Bon, le psychiatre se prononce sur la responsabilité, mais j'ai eu un procès une fois qui s'est terminé par une réclusion à vie, où j'ai posé la question au psychiatre. Le psychiatre admettait une responsabilité totale. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire en prison de cette personne? Qu'allez-vous faire? Le psychiatre a répondu, on ne m'a pas posé cette question, je ne l'ai pas examinée. Je trouve un petit peu fort. Maintenant, pour répondre à M. le bâtonnier, je dirais que M. le bâtonnier a beaucoup de chance d'avoir pu collaborer avec le psychiatre pour proposer une solution. Parce que, ici, peut-être, M. le Président Fonjala dira Si moi je prends contact avec un psychiatre lors de l'expertise, on me dira, mais attention.
Témoin.
Ah oui. Ah si, c'est le médecin traitant, voilà. Ça joue tout à fait. Mais il semblerait, justement. C'est...
Voilà.
Alors c'est le médecin traitant, c'est le médecin traitant. Mais je pense, alors je suis très heureux, mais je pense que. Oui, l'affaire,
non, l'affaire... C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre entre experts. Il y a cette confusion entre experts et témoins tout à l'heure. Le médecin traitant peut être témoin et peut collaborer avec l'avocat. L'expert, en principe, n'a pas de relation
Peut-être, mais là, je dois dire, alors, ceci, c'est peut-être regrettable que l'avocat ne puisse pas avoir de relation avec l'expert, dont le poids sera essentiel lors du jugement, ça pourrait être tout de même utile. Et là, je dis qu'il y a quelque chose peut-être à modifier. Je pense qu'il pourrait être heureux que l'avocat défenseur puisse contacter l'expert.
Mais pour ça, il faut d'abord modifier la mission de l'expert.
Je vais quand même juste préciser quand même qu'actuellement, il y a une tendance très générale chez les magistrats instructeurs. Chaque fois que l'avocat pose des questions, et on en a discuté ensemble, qui sont de plus en plus incisives et précises et détaillées, au lieu de dire « je suis ou je ne suis pas », le juge d'instruction transmet les questions de l'avocat à l'expert, ce qui permet quand même d'établir d'une certaine façon ce dialogue que vous demandez.
Je crois que M. Président Fonjala souhaite s'exprimer.
Oui, je voulais simplement dire qu'il y avait actuellement une démarche interdisciplinaire qui était en route s'agissant du questionnaire auquel vous avez fait allusion. En ce qui concerne les pourcentages auxquels vous avez fait allusion, alors je peux vous rassurer, il n'y a plus question de demander des pourcentages de diminution de responsabilité, mais c'est vrai que compte tenu de la jurisprudence actuelle du tribunal fédéral, reste cette contrainte de demander aux experts d'évaluer le degré de responsabilité selon trois critères, diminution faible, moyen ou grave. Alors ça, c'est vrai. En ce qui me concerne, à titre personnel, je ne suis pas convaincu par cette échelle que le tribunal fédéral a instauré dans deux arrêts récents, qui me paraissent alors là tout à fait discutables et qui effectivement là donnent trop de pouvoir à l'expert. La situation d'un détenu, d'un prévenu doit s'apprécier globalement et non pas en fonction d'appréciation si aléatoire.
Ouais. Mais je vous remercie. Juste un mot, il n'y a pas du tout eu de confusion, comme dit Grasset, entre experts et témoins. Ce qu'on dit, c'est que dans la mesure où le nouveau droit, il y a un nouveau droit qui est étudié, semble-t-il, actuellement, qu'on souhaiterait qu'on se débarrasse de l'expert psychiatre, qui est souvent contesté, contestable, parce que d'abord, il ne s'occupe pas d'une science exacte, et puis qu'on substitue à cet expert, justement, un témoin psychiatre. C'est du droit souhaitable.
Dans les faits, je ne suis pas certain que la différence sera si grande, parce qu'en fin de compte, le juge sera obligé de s'en remettre à quelqu'un qui a examiné la personne avec des compétences qu'il n'a pas. Quoi. Et ça, c'est impossible à corriger, à mon avis, quelles que soient les règles. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Une fois. Oui. Ah ben, le micro vous arrive.
Moi, je vois quand même un énorme avantage au fait que l'expert soit considéré comme un témoin, c'est que ça officialiserait enfin la possibilité de le contraindre à dire « je » et non pas « c'est ». La légitimité de l'expert, c'est quand il n'est pas dans un domaine absolu et qu'au lieu de dire « c'est la vérité », il dit simplement « voilà ce que cette personne m'a dit et voilà ce que j'en pense ». Il ne dit pas « voilà ce qui s'est passé et voilà dans quel état il était hein ».
Voilà. Quelqu'un souhaite-t-il encore s'exprimer ? Tel ne paraît pas être le cas. Il me reste à vous remercier de votre attention. On est resté au-delà de l'horaire. C'est sans doute parce que le débat était intéressant. Je vous remercie.
Juste un mot pour vous dire qu'on vous attend demain matin. à la même heure, c'est-à-dire à 8h30. Merci et bonne rentrée. Pour ceux qui veulent, je le rappelle, il y a le souper au grain de sel avec le crabe cabaret. À l'excellence des intervenants et à la qualité du débat avec les participants. Je vous souhaite aussi pour aujourd'hui une très bonne journée. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Lamotte, professeur Lamotte, qui est docteur Lamotte, qui est médecin-chef du service médico-psychologique régional des prisons de Lyon, expert national à la Cour de cassation.
Musique, mais enfin, il faut. Je ne sais pas si vous allez vraiment y gagner. Alors. Je fais un petit peu le même travail que Bruno en France, à Lyon, et on a intitulé la communication, on a fait une référence à l'international, c'est un peu pompeux, je ne sais pas si c'est vraiment approprié, si ce n'est que peut-être, je vais esquisser à partir de l'expérience française ce qui risque d'être une internationale de la perversion institutionnelle, et les risques, en quelque sorte, que nous encourons alors que nous élaborons des textes qui sont censés nous protéger, qui sont censés être dans le droit fil d'une éthique, et même un peu plus qu'une éthique, d'une morale, je m'expliquerai sur la différence que je fais entre les deux, mais en tout cas de principes qui traduisent notre volonté de civilisation et de voir comment est-ce que ces textes peuvent être assez facilement détournés et aboutir quelquefois à l'inverse de ce qu'on a recherché. Alors, il existe en France une organisation qui est en principe assez proche de celle qu'on recommande comme modèle aux États membres aux États membres du Conseil de l'Europe pour l'organisation de la médecine en milieu pénitentiaire, pour la bonne raison qu'elle a été au départ, elle a servi de canevas pour le texte. Mais en gros, cette organisation suppose depuis 1994 que le principe d'équivalence entre soins civils en milieu civil, offre de soins en milieu civil et offre de soins en milieu pénitentiaire, se fait par le biais de conventions hospitalières qui sont passées entre un hôpital de proximité et les établissements pénitentiaires, chaque établissement pénitentiaire, ceci aussi bien pour les soins somatiques que pour les soins psychiatriques. Et puis alors il y a en plus une organisation spécifique pour les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, les SMPR, donc qui sont exactement comme les secteurs de psychiatrie générale ou de psychiatrie infanto-juvénile, avec des médecins et du personnel rattaché à un centre hospitalier qui intervient en prison. Alors, l'offre de soins est donc en principe de bonne qualité, de niveau équivalent, mais elle a gardé ses caractères spécifiques, et on pourrait dire qu'elle devient tellement spécifique qu'elle commence à nous poser quelques questions et qu'elle commence à devenir préoccupante. Ça fait quelques années qu'on avait introduit avec Bruno l'idée de l'externement arbitraire pour décrire la situation que nous rencontrions quelquefois dans les hôpitaux psychiatriques. Et vous savez qu'il y a toujours une balance entre la pression de la défense sociale et donc les médias, le public qui cherchent à organiser une espèce de protection systématique contre le risque représenté par la dangerosité des différents agresseurs potentiels, parmi lesquels le fantasme imaginaire est que la dangerosité du malade mental est bien plus grande encore que celle des autres, pour la bonne raison que, comme on la comprend moins, on la redoute encore plus. On peut toujours imaginer que vous comprenez ce que veut quelqu'un qui vient cambrioler chez vous, mais que vous ne comprenez pas celui qui vous pousse sous le métro sans qu'il vous ait jamais adressé la parole, ni qu'il sache qui vous êtes. Donc, il y a une pression sociale pour contrôler, avec différentes lois de défense, cette dangerosité. Et cette pression, elle doit en même temps s'accommoder d'une autre pression, qui est celle du respect, non seulement de la liberté individuelle, mais des droits de la personne. Et on se rend compte que, suivant les options que prennent les pays, ou suivant les moments de l'histoire, les textes correspondent à chacun de ces mouvements, quelquefois d'une façon réfléchie, on pourrait dire d'une façon mature, pour paraphraser un peu le système individuel, et quelquefois sous la pression, au contraire, d'un événement particulier, et à ce moment-là, on aura au contraire des lois d'exception immatures, dont on va traîner le boulet pendant des années. Il y a quelque chose qui est assez net en France, qui traduit cette situation, c'est que nous avons en 1994, dans l'espace de 2 mois, changé en même temps le code pénal et en même temps voté une de ces lois d'exception. Le code pénal était travaillé depuis 10 ans, avec des commissions, avec Bruno Gravier avait participé, entre autres avec la commission des maladies mentales, à l'élaboration de notre nouvel article 122.1, c'est-à-dire l'équivalent de votre article 10 sur l'irresponsabilité, des textes qui ont été très pensés, ligne par ligne, alinéa par alinéa, et avec un esprit et un sens, et rattrapés au tournant par une rodomontade ministérielle sous la pression de Paris Match et d'un enfant malheureusement tué dans des circonstances horribles par quelqu'un qu'on supposait être un pervers sexuel, et qui tape du poing sur la table en disant « plus jamais ça avec moi ». Alors, d'un côté, ça donne un texte qui a du sens, et de l'autre, ça donne une loi de désespérance avec la création d'une peine de sûreté de 30 ans, incompressible, qui vient, non pas dans sa lettre tellement, mais dans son esprit, invalider toute possibilité évolutive et dire, quels que soient les efforts que vous, employés de l'État que nous payons pour prendre en charge les patients, il est interdit de changer pendant 30 ans. À la limite, je pense qu'il n'est pas complètement anormal de mourir en prison, mais je préfère la détention au bon plaisir de Sa Majesté, comme en Angleterre, ce qui laisse entendre que tant que rien ne change, ben, ma foi, la personne continue à être en institution, plutôt que quelque chose qui verrouille. Ce sera 30 ans, point, et interdit de changer avant. On met des conditions de changement qui sont telles que c'est complètement illusoire. Vous voyez que cette loi qui sort en février 1994, rattrapant le code pénal qui sort en mars 1994, court-circuite tous les efforts de sens qui avaient été faits auparavant. Et je crois que ça, c'est un des gros problèmes avec lequel nous avons à composer. Il y a une pression libertaire en France qui essaye de respecter au maximum la liberté individuelle dans les hôpitaux psychiatriques. Quelle va en être la conséquence? Eh bien, la conséquence va en être qu'il existe un certain abandon de toute la psychiatrie de comportement, toute la psychiatrie qui s'exprime à travers le comportement, qui peut s'exprimer à travers le passage à l'acte, mais pas seulement des passages à l'acte, qui prend une forme pas toujours verbalisable dans le soin. Et ces patients qui sont rejetés des hôpitaux psychiatriques avec un label insoignable, ne relèvent pas du soin institutionnel, tôt ou tard finissent par accomplir une délinquance de survie et se retrouvent en détention qui, elle, accueille sans distinction de rang ni de fortune. Donc nous avons en ce moment en prison une montée d'un quart monde de patients qui sont abandonnés, les bag people un peu dans les rues, et de patients psychotiques ayant un mauvais contrôle d'eux-mêmes et finissant tôt ou tard par avoir un passage à l'acte incontrôlé. Alors, est-ce que le nouveau code pénal et notre article 122 a changé les choses? C'est une loi qui est typiquement une loi française. Nous avons réglé la question de la responsabilité en disant que la responsabilité ne se divise pas et elle est ou elle n'est pas. Mais en revanche, ce que dit notre code, c'est que s'il existe un trouble du discernement ou du contrôle des actes qui va altérer sans l'abolir la capacité de contrôle ou de jugement, eh bien, on en tiendra compte pour le prononcé de la peine et son exécution. Vous voyez que là, on a résolu la question du pouvoir psychiatrique. Les psychiatres disent qu'il existe quelque chose, mais c'est tout. Et les juges se déterminent exactement comme ils se déterminent en l'absence de trouble pour le prononcé de la peine et l'exécution. Fort bien. Mais en réalité, ça aboutit à faire que si chez vous, la responsabilité diminuée par tranche, comme on le disait hier, peut-être pas évaluable à pourcent près, mais en tout cas par grosse fraction, aboutit à une réduction de la peine, chez nous, ça aboutit la plupart du temps, sous la pression de la défense sociale, à une aggravation. Et on finit par dire, le plus longtemps ils sont à l'abri dans l'institution, le plus longtemps ils nous ficheront la paix. Mais même pire, le plus longtemps, ils nous soigneront, ce que notre ami l'avocat hier reprochait ou presque gentiment à Bruno en disant qu'il y a le docteur Gravier qui les soigne si bien, envoyant donc en prison. C'est complètement devenu une réalité en France. Je vais vous donner un exemple, une preuve de la situation. J'ai dans mon service en ce moment un patient qui est un parricide. Ce patient a tué sa mère dans les conditions suivantes. Il disait qu'il était Lucifer, que sa mère était Dieu, et il fallait que Lucifer tue Dieu avant minuit, sinon ce serait la fin du monde. Vous voyez que c'est un propos qui n'était pas tout à fait rationnel, et ce patient était connu depuis 15 ans, ayant navigué dans toutes les institutions du secteur. Comme il était un peu grandiose et qu'il avait aussi des attitudes un peu méprisantes à l'égard de son médecin-chef, il changeait régulièrement de secteur parce que le médecin-chef ne le supportait plus, mais enfin, il n'y avait pas d'antécédent de passage à l'acte agressif. Donc, il rentre interné par le médecin de famille le jeudi, qui dit « attention, il est en train de dire qu'il va la tuer », etc. Le médecin du secteur dit le vendredi « non, 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 il ne la tuera pas, il va très bien, vous ne la tuerez pas, n'est-ce pas ?» On le renvoie chez lui, et le samedi matin, il tue sa mère. Bon. Trois collèges d'experts l'examinent, le responsabilisent en disant qu'il faut qu'il rencontre la loi un petit peu, ce qui est finalement pouvait se comprendre. Hein. Et le résultat des cours, c'est qu'il obtient 15 ans de détention, 15 ans de réclusion en cour d'assises, ce qui, par à peu près le tarif chez nous, correspondrait au fait de tuer un pompiste dans un hold-up. Hein. Donc, il a une peine très longue à accomplir. Et maintenant qu'il est sous traitement neuroleptique, alors qu'il était vierge de traitement au moment de son arrestation, il n'est plus tout à fait le même. Et vous voyez qu'il va avoir à séjourner en détention, à être en soins, dans des conditions qui étaient celles de l'hôpital il y a une dizaine d'années. Et qu'on peut se demander si ce transfert institutionnel est tout à fait sain. Alors, bien sûr, en théorie, il nous reste l'article D398 du Code pénal, qui, en principe, dit que, du Code de procédure pénale, qui dit que toute personne en état d'aliénation mentale doit quitter la prison pour être soignée à l'hôpital psychiatrique. C'est une mesure que presque tous les pays d'Europe, dans les 41 États membres du Conseil de l'Europe, presque tous les pays ont une mesure de ce style qui prévoit en gros que la prison ne peut pas être officiellement le lieu de soins sous contrainte. En théorie, il faut qu'on offre des garanties, et ça c'est bien clair dans tous les textes européens, quelle que soit la forme de l'internement, parce que certains pays ont des internements strictement judiciaires, comme chez vous. Chez nous, c'est un internement qui est en partie administratif, puisque le préfet, représentant du gouvernement, est garant non seulement de la forme de l'exécution de l'internement, mais même du fond, d'une certaine manière, puisque ses services apprécient l'opportunité de le poursuivre. C'est seulement le recours qui est judiciarisé. Donc vous voyez que dans chaque pays, il y a des formes différentes, mais ce qui importe, c'est qu'on ait la notion d'une autorité indépendante qui juge du bien fondé de l'internement, de sa régularité formelle et de la nécessité de son maintien. Or, si cette protection existe dans les institutions psychiatriques, elle n'existe pas du tout à l'intérieur de la détention, où les juges sont maîtres de ce qui s'y passe, l'administration pénitentiaire dans une certaine mesure, et nous aussi d'une certaine mesure, médecins en milieu pénitentiaire, mais sans les garanties de recours qu'a prévu la loi à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ben, jusqu'ici, on disait, on se sert de cette vieille définition de l'aliénation, qui était suffisamment floue, fourre-tout, pour qu'on puisse y mettre n'importe quoi. Et on envoyait en hospitalisation d'office, c'était des internements administratifs, ceux qui étaient en situation de ne plus pouvoir être soignés à la prison, soit parce qu'ils étaient authentiquement en situation de danger pour eux-mêmes ou pour autrui, mais aussi parce que la capacité de soins de la prison était dépassée. Est-ce que vous pensez que malgré tout l'argent que vous donnez au docteur Gravier, il peut tout faire dans une prison ? Je crois qu'on est quand même limité. En tout cas, moi, je ressens une limite qui est une limite formelle, ne serait-ce que par le fait que je suis obligé de composer avec un corps de surveillance qui, quelles que soient ses bonnes intentions, sa bonne formation et ses bonnes relations à mon égard, a des impératifs qui mettent un poids sur certaines formes de traitement. Il m'est arrivé d'organiser des psychodrames en prison, mais je n'ai pas recommencé depuis un certain nombre d'années parce que l'acceptance n'en était pas facile et que les inconvénients en étaient plus grands que les avantages. Mais en revanche, ayant été moi-même formé au psychodrame analytique, je regrette de temps en temps de ne pas pouvoir poser l'indication sur des patients. C'est un exemple, mais il y en a infiniment d'autres, et entre autres, notamment, celui pour les patients mélancoliques. Un patient qui est mélancolique, qu'on disait hier, qui ne mange plus, etc., mais celui qui se tourne la tête contre le mur et qui ne vit plus, il n'est pas immédiatement menacé de mort, mais en tout cas, on est sûr que ce sont les murs qui le rendent malade et qu'on touche nos limites avec lui. Jusqu'ici, on pouvait faire une hospitalisation d'office dès 398, et la nouvelle rédaction du code de procédure pénale du 9 décembre 1998 a introduit un petit changement sans que personne le relève ni dans le monde ni dans rien, ce qui vous montre que ces questions de liberté ne sont pas tellement suivies quand il s'agit des prisonniers. Eh bien, ce petit changement est que, dorénavant, on a remplacé l'état d'aliénation mentale par une définition faisant état de l'hospitalisation d'office, c'est-à-dire que si le détenu relève des conditions prévues à l'article L342, vous voyez la périphrase, ce qui veut dire s'il est dangereux exclusivement pour l'ordre public en liaison avec une maladie mentale, ce qui est quand même très restrictif, eh bien, il doit quitter la prison et être envoyé à l'hôpital. Je résume. Ce qui veut dire qu'avant, on pouvait dire notre capacité de soins est déplacée et nous avons demandé réglementairement, prévoyez expressivement ce cas, remplacer l'aliénation mentale qui est floue par la possibilité de faire un internement pour la protection du patient dans l'hôpital. Et on nous répond très bien, on va y réfléchir et hop, ce qu'on nous sort, c'est seulement si le patient relève d'une hospitalisation d'office. Et voilà une restriction d'un coup qui vient d'officialiser la présence des psychotiques soignés au long cours en détention. Une situation qui est par exemple tout à fait opposée à l'Angleterre ou à l'Écosse. John Gunn disait qu'il n'a que 2% de psychotiques dans les prisons anglaises. Je crois qu'il se gourre un peu parce qu'il les relève au DSM-4, ce qui n'est pas un bon screening. Mais nous qui les relevons plus sur des critères de structure psychodynamique et qui avons fait des enquêtes un jour donné avec le DSM, justement, on trouve 7% de schizophrènes présents dans les prisons. Et je pense qu'en structure psychotique, on est beaucoup plus près des 12 ou 15, ce qui vous donne une idée de l'hôpital psychiatrique occulte qui se cache dans les prisons actuellement. Alors, quel qu'on a encore comme autre problème, ben, c'est le problème du consentement. Les textes européens nous disent le consentement, c'est la loi sine qua non du soin normal. Et même les textes européens martèlent qu'il ne saurait y avoir de soins sans consentement nulle part, point. Ah, oui, il n'y a pas de soins sans consentement. Il y a seulement la nécessité de protéger la personne lorsqu'elle est incapable de consentir. La nuance est très belle. Et effectivement, on la comprend. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le coma, qui vient d'être renversé dans la rue, et puis vous ne trouvez personne pour parler en son nom, un mineur avec ses parents ou un bébé, hein, ou un psychotique en état de délire avancé, vous allez considérer que vous ne les soignez pas sans leur consentement. Ils ne sont pas capables de consentir, donc il faut se substituer à eux. Et il suffit d'un tour de passe-passe, d'un constat, dont la forme n'est absolument pas précisée, nulle part, pour constater que le consentement étant impossible, vous avez le droit à ce moment-là d'exercer les soins sous contrainte, entre guillemets, quelle que soit la nature de ces soins, que ce soit une perfusion ou que ce soit un enfermement pour un malade mental. Alors on dit, mais ce n'est pas en prison ça, mais si. Il n'y a aucune distinction institutionnelle. Et à tel point que le nouvel article, toujours dans ce décret du 9 décembre 1998, passé inaperçu, je vous le rappelle, le nouvel article du Code de procédure pénale français, article D362, dit « Le détenu, je pourrais vous le lire, ça vaut son pesant de graton, comme on dit à Lyon, le détenu doit consentir aux soins, sauf si... Et on ne lui délivre pas au détenu de soins sans consentement, sauf si son état de santé ne lui permet pas de consentir aux gestes de thérapeutique, il y a même aux gestes de diagnostic. Alors voilà qui est encore plus fort. On peut même imposer un geste de diagnostic. Donc quelque part, le code de déontologie nous dit bien qu'il ne doit pas être très violent, qu'on doit éviter les effractions du corps, on ne va pas faire une endoscopie systématique pour toutes les grippes ou je ne sais pas quoi, mais enfin quand même, on tue des gens en faisant des gestes d'endoscopie ou des gestes d'investigation nécessités par leur état. Bien, dorénavant, on pourra juger que si le patient n'est pas en état de consentir, on a le droit de lui prélever tout ce qu'on veut. Est-ce que le risque est si grand que ça? Ben, quand même. Alors vous me direz, la défense sociale, elle a des nécessités. Un type qui vient de violer quelqu'un, on a le droit de savoir s'il est séropositif pour une hépatite ou pour un HIV. Et la victime le demande qu'on le fasse, ce prélèvement. Jusqu'ici, on a toujours admis que le patient avait le droit de s'opposer à ce type de prélèvement. Et demain, on pourra dire qu'il est énervé ou caractériel, il est même dans un état tel qu'il n'est plus en état de donner son consentement, et hardi petit, on l'attache et on le pique et on prélève. C'est peut-être l'intérêt de la société. Je crois que sans réflexion aucune, c'est un danger grave sur lequel il faut que nous réfléchissions. Hein. Et c'est une disposition européenne. C'est pour ça que je vous parlais de l'international de la perversion. C'est pas quelque chose... C'est transcrit en France dans les textes, mais c'est inspiré directement. C'est la conséquence de cette réflexion sur le consentement européen. Alors, vous me direz, mais on est quand même protégé, puisque vous venez de créer une loi hospitalière. Dorénavant, l'accès au dossier, tout ça va être régi par la loi hospitalière, bien sûr. Le patient, maintenant en prison, a exactement les mêmes droits que dehors. Il peut même demander son propre médecin, à condition qu'il le paye, à condition qu'on l'autorise, à condition qu'il y en ait un, à condition, enfin, ça risque pas d'arriver. Mais enfin, théoriquement, il peut demander son propre médecin. En tout cas, il pourra peut-être demander des avis sur sa situation. Et il est vrai que nous, de temps en temps, on est demandeurs de ce style d'avis pour pouvoir étayer une position où on nous craint. On pourrait penser que par empathie avec notre patient, par identification, on a pris sa parole et qu'on est engagé avec lui. Eh bien, ça pourrait paraître une grande avancée. Mais le risque de l'accès au dossier dans les conditions hospitalières, c'est aussi que les juges, qui ont toujours besoin d'informations, considèrent qu'on peut effectivement s'en servir sans grande forme de procès. Jusqu'ici, il fallait, pour saisir un dossier médical dans une procédure pénale, faire venir le président du Conseil de l'Ordre qui accompagnait le juge d'instruction. Il y a eu des discussions pour savoir si c'était un OPJ ou le juge d'instruction lui-même. Enfin, c'est une procédure très solennelle. Enfin, c'est les fermés qui n'est ouvert que par l'expert. Il y a quelque chose qui protège un petit minimum la confidentialité médicale. Un beau jour, il y a une victime qui demande savoir si son agresseur est HIV positif. Et l'expert se présente à la prison et dit au médecin de prison, donnez-moi dans le dossier médical. Voilà, cher ami, hop, ah bon, il est lâché négatif, hop, il met la pièce, une photocopie du dossier. Le procureur saute au plafond et dit, cette pièce est illégale, il n'avait pas à saisir, et il la retire. La partie civile fait appel devant la chambre d'accusation qui donne tort au procureur, en disant, mais cette pièce, il faut la laisser dedans. Et la cour d'appel de Rennes confirme, la pièce qui a été saisie de façon irrégulière, communiquée par le médecin sans l'accord du patient, est bel et bien valide, pour la bonne raison qu'il aurait suffi qu'on fasse la procédure normale de saisine du dossier pour y avoir accès. Du moment que le médecin n'a pas trouvé d'inconvénient à la donner, eh bien, on la garde dans le dossier, elle est licite. Alors, vous me direz, on comprend bien avec nos tripes ce que ça veut dire, on comprend bien dans quel sens c'est fait, et puis peut-être qu'on serait plus prudent dans d'autres cas, mais il n'empêche que notre sensibilité judiciaire s'émousse, que nous commençons à trouver normales des situations anormales, et que la justice nous fait gober des poissons de plus en plus gros, en disant que, au fond, le secret médical en prison n'est pas si important que ça, que le consentement peut être contourné, que le soin, et bien ma foi, s'il n'y a plus de raison qu'on envisage de l'organiser au long cours dans les institutions spécialisées, puisque la prison devient elle-même un lieu de soins, etc. Mais il y a mieux, c'est que, alors que depuis 30 ans, 40 ans, nous martelons que la délinquance n'est pas une maladie mentale, par le jeu de l'abord des auteurs d'infractions à caractère sexuel, on commence à nous dire, mais si, la délinquance, c'est une maladie mentale, et vous, les psychiatres, traitez-la donc. Demain, on va nous dire qu'il faut être fou pour être un délinquant économique et qu'il faut traiter les voleurs de force. Voilà. Pourquoi pas? C'est vrai que dans votre beau pays où tout est clean et tout, comment peut-on être déviant socialement? On est sûrement fou quelque part. Il faut bien qu'on fasse d'une usine en blouse aussi. Alors, vous voyez que, avec les meilleures intentions du monde, l'abord de l'auteur d'infraction à caractère sexuel. Je sais bien qu'en France, on a traîné les pieds et qu'on pourrait s'abriter derrière cette justification théorique pour l'avoir fait. Mais enfin, quand même, on ne les a pas abandonnés depuis 20 ans. Ceux qui étaient souffrants, on les a toujours rencontrés, et même un peu les autres. Hein. On a pondu un beau système d'obligation de soins, d'injonction thérapeutique, Et on s'est battu pour lui donner une forme qui soit acceptable. C'est-à-dire que la politique musclée, on ne va pas dire son côté, mais enfin la politique musclée